Bonne matinée à vous toutes et à vous tous. Merci d'être avec nous sur Grand Sud FM. Début de l'émission spéciale sur le salon du livre du Grand Narbonne. Tout de suite, on va retrouver Benjamin avec Emma Bellotti. Bonjour Benjamin.
Bonjour Jean-Michel et bonjour à tous les auditeurs de Grand Sud FM. En effet, votre radio locale est en direct du Salon du Livre du Grand Narbonne pour cette 11e édition qui va se dérouler aujourd'hui et également demain, en rappelant que l'entrée est gratuite. Et pour débuter cette émission, je suis avec Emma Bellotti, vice-présidente du Grand Narbonne, déléguée à la politique et à l'action culturelle. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter ce Salon du Livre du Grand Narbonne?
Alors, le Salon du Livre, cette année, concerne donc la 11e édition. C'est un salon du livre, comme chaque année, qui se tient sur le cours Mirabeau. Les amoureux des livres pourront rencontrer à peu près 100 auteurs. Mais nous avons voulu également créer des événements qui vont faire vivre la littérature hors les murs, c'est-à-dire 3 rencontres sur la péniche Le Solal, sur le canal de la Robine, une lecture musicale ce soir au Narbovia avec Magid Cherfi, une dégustation commentée comme chaque année au Hall demain matin vers 11h, et des balades poétiques, ça c'est nouveau cette année, dans le centre-ville avec la compagnie Le Ressort.
Alors depuis sa création, le salon s'est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les amoureux des livres. Quelle est l'ambition année après année pour ce rendez-vous?
Alors derrière ce rendez-vous qui, comme vous le dites, est devenu incontournable, se dessine, il est clair, une ambition très très forte, portée haut, une politique culturelle vivante, fondée sur la conviction que la lecture, l'écriture et la rencontre avec les auteurs sont finalement des leviers puissants d'émancipation, de lien social et de la transmission.
Alors, je le disais en ouverture de cette interview, Emma Bellotti, l'entrée est gratuite. Est-ce que l'ambition d'un tel salon, c'est de pouvoir rendre disponible la culture pour tous?
Tout à fait. C'est l'ambition des élus du Grand Narbonne. Comme pour le Salon du Livre et comme pour d'autres événements comme la Tempora, nous souhaitons que ces événements soient gratuits pour que, bien entendu, la culture soit accessible à tous, partout sur le territoire et tout le temps.
Alors, est-ce que vous avez coché des auteurs à aller voir personnellement, Emma Bellotti?
Alors, bien entendu, je ne peux que parler en priorité de Michel Bussy, qui est, nous l'avons la chance cette année, d'être le parrain de cette édition. Bon, on ne présente plus Michel Bussy, on sait que c'est un des auteurs de romans policiers les plus lus en France et traduits dans le monde entier. Et déjà, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui attend. Et il a eu la gentillesse en plus, non seulement il sera là pour dédicacer son dernier roman, mais aussi pour faire une dictée à toutes les personnes qui le souhaitent, à la manière de Bernard Pivot. Je citerai également Les Liens du Sang avec l'ex-parolier de Zebda, qui est une déclaration d'amour éperdue et déguisée, un portrait de femme. Je citerai également l'un dialogue entre mère et fils pour comprendre mieux l'autisme. C'est la mère de Paul Elkarat qui va nous présenter de façon très sensible cette difficulté. Alors, sur 100 auteurs, il est difficile de faire des choix. Bien entendu, également, il y a aussi, avec la plume délicate de Lynne Papin, qui dévoile un roman irrésistible et dérangeant qui s'appelle Une vague. Mais j'invite finalement toutes les personnes, en fonction de leur sensibilité, de leur envie, de découvrir ces 100 auteurs qui se trouvent sur le cours Mirabeau.
Merci Emma Bellotti. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du Grand Narbonne, déléguée à la politique et à l'action culturelle. On rappelle que ce Salon du Livre ouvre ses portes à 10h, donc dans quelques minutes, venez nombreux.
Voilà, avec ce beau soleil, c'est une belle promenade culturelle que l'on peut faire sur le cours Mirabeau, tout à fait.
Voilà Jean-Michel, donc on rappelle aux auditeurs de Grand Sud FM que cette 11e édition du Salon du Livre du Grand Narbonne ouvre ses portes à 10h. Sachez que l'entrée est gratuite et dans les toutes prochaines minutes, Marilyn sera en direct avec le parrain de cette édition, Michel Bussy.
10h passées de 2 minutes sur Grand Sud FM, toujours en direct du Salon du Livre du Grand Narbonne. On va retrouver Marilyn avec le parrain de cette édition, Michel Bussy. Bonjour Marilyn.
Et bonjour Jean-Michel, bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, je suis en compagnie de Michel Bussy, le parrain de cette 11e édition du Salon du Livre du Grand Narbonne. Un des auteurs préférés des Français, 13 millions de livres vendus dans le monde, traduits en 35 langues. Bonjour Michel.
Bonjour.
Donc Michel Bussy, on va commencer par votre arrivée hier parce que je sais que vous avez été investi. Vous avez été investi par le consulat de Septimanie avec Clarisse Hénedot, donc qui est la directrice littéraire des presses de la Cité. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment ?
C'est un moment impressionnant, hein. J'ai eu ma médaille, mon diplôme, ma caisse de vin du Languedoc, et puis voilà, j'ai prêté serment surtout. Non, c'est très impressionnant, c'est à la fois impressionnant puis à la fois très détendu, puisque ce sont des gens qui se prennent pas non plus au sérieux. Alors, il faut surtout pas dire qu'ils sont déguisés ou costumés, ils sont en habit, bien sûr, parce que c'est une tradition, j'ai compris, qui date de plusieurs siècles.
Donc c'était un agréable moment, vous avez commencé comme ça et puis hier vous avez fait la soirée d'inauguration avec déjà un premier échange avec le public. Alors je sais que c'est la première fois que vous venez au Salon du Livre du Grand Narbonne, vous êtes romancier, vous avez une grande passion aussi pour la bande dessinée, on va y revenir tout à l'heure, mais j'aimerais commencer par le côté romancier parce que vous êtes quand même venu, Michel Bussy, avec un nouvel ouvrage, Les Assassins de l'Aube, est-ce qu'on peut en parler, vous pouvez le présenter ?
Oui, alors c'est un ouvrage qui est sorti en octobre dernier, donc il y a déjà un petit moment, et c'est un roman qui se passe en Guadeloupe. C'est un pur thriller, hein, puisqu'il s'agit d'un tueur en série qui va commettre un certain nombre de crimes en Guadeloupe avec une équipe de police guadeloupéenne qui le traque. Et c'est l'occasion à la fois de visiter la Guadeloupe dans ses lieux les plus emblématiques comme les plus secrets, et aussi de revisiter l'histoire, puisque les crimes sont situés un petit peu sur fond d'esclavage, en tout cas de passé de la Guadeloupe qu'on connaît assez peu en métropole. Donc, voilà, donc c'est à la fois un thriller, mais on en ressort, j'espère, en connaissant bien mieux la Guadeloupe.
D'ailleurs, ce soir, on a rendez-vous avec vous, Michel Bussy, à 17h, à l'espace Rencontre, sur ce Salon du Livre du Grand Narbonne, sur le cours Mirabeau, pour échanger avec vous sur Les Assassins de l'Aube. Vous faites souvent des recherches comme ça, parce que c'est un thriller, comme vous le dites, mais c'est aussi des recherches sur l'histoire de la Guadeloupe.
Oui, moi, avant d'être écrivain, j'ai été pendant à peu près 25 ans professeur de géographie politique à l'université de Rouen. J'ai même, pendant à peu près 10 ans, tous mes premiers livres, je continuais d'être professeur d'université tout en écrivant mes livres. Donc, c'est vrai que quand j'écris sur un lieu, que ce soit la Guadeloupe, que ce soit la Corse, que ce soit les îles Marquises, par exemple, je me rends sur place, évidemment, mais il y a aussi tout un travail de documentation, travail de recherche, hein, tout simplement, en lisant des dizaines d'ouvrages, en me documentant, en interrogeant des spécialistes, de manière à ce qu'ensuite, effectivement, le roman soit le plus exact possible, avec cette précaution que c'est toujours l'histoire qui mène les personnages qui m'animent, mais il faut qu'il y ait un travail complet de fond, et j'adore le faire, sans doute, comme je le disais, parce que j'étais chercheur en géographie politique, et donc j'ai cette envie aussi de découvrir ce qu'en ont dit les spécialistes sur ce lieu.
D'ailleurs, vous avez enseigné, c'était pas jusqu'en 2016 hein ?
Oui, c'est ça. J'ai enseigné jusqu'en 2016, donc ça veut dire que mes romans, on va dire les premiers romans, ceux qui m'ont fait connaître du grand public, comme D'un fait à noir ou Un avion sans aile, par exemple, je les ai écrits en ayant une activité professionnelle, importante. Et c'est vrai que c'était une période assez, parfois assez compliquée, où je devais jongler entre presque deux identités. Mais au final, on a tous les écrivains, ils ont un petit peu leur passé finalement. Et moi, mon passé, c'est finalement celui d'un chercheur en géographie, ce qui fait que souvent, les lecteurs, en plus de mes intrigues, je pense, ils adorent voyager avec moi. En tout cas, ils ont l'impression que quand je les emmène dans un lieu, ils vont faire un voyage avec beaucoup d'éléments qui vont les nourrir. C'est pas comme si, c'est pas juste un simple guide du routard ou une simple carte postale. C'est-à-dire qu'on va entrer dans les lieux en profondeur.
Ah ben justement, ce soir, ça s'appelle Voyage aux côtés de Michel Bussy. C'est à 17h, c'est gratuit et c'est à l'espace Rencontre du Salon du Livre du Grand Narbonne. Alors, Michel Bussy, vous aimez aussi la BD, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une grande passion pour la BD, pour plein de choses finalement, et vous êtes venu avec Didier Casgrain pour l'adaptation de votre thriller Ne lâche pas ma main. On retrouve cette BD en exposition d'ailleurs à l'espace média de Narbonne. Comment est née cette passion pour la BD ? Je crois que c'est votre première passion même.
Oui, comme beaucoup d'enfants. Alors moi, j'ai grandi plutôt dans les années 70 et 80, et donc c'est une période où la BD finalement naissait. Enfin, la BD pouvait, il n'y avait pas grand-chose avant à part les Astérix, les Tintins. Et donc, toute une série de BD, de science-fiction, d'aventures, d'humour aussi, est née dans ces années-là. Et tout était permis, quoi. Voilà. Et donc, c'est ce qui m'a permis de peut-être sans doute de forger mon humour, de forger ma façon de raconter des histoires. Et aujourd'hui, la BD a mûri. Hein. La BD, évidemment, on parle beaucoup de romans graphiques. Elle s'adresse aussi beaucoup plus sans doute aux adultes qu'auparavant. Mais moi, je garde en fait ce sentiment que beaucoup de choses sont venues de la BD en fait. Et d'ailleurs, le cinéma s'est beaucoup inspiré de la BD notamment. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des génies absolus de la BD. Dans ces années pionnières. Et donc, je suis très fier aujourd'hui, évidemment, de faire pas mal de BD, que mes romans soient très adaptés en BD, et aussi, surtout, de travailler avec des dessinateurs de grands talents, comme Didier Casgrain, par exemple, ou Noé Monin.
Et voilà, Noé Monin aussi, parce qu'il est présent sur ce salon du livre avec la série KPDP 5 avril.
Oui, alors c'est une série historique qui se passe à la Renaissance, dans l'univers de Léonard de Vinci. Donc on est à la fois dans quelque chose qui historiquement est très très précis, et à la fois on joue avec l'histoire, puisque de Vinci évidemment était un génie qui inventait qui avait des inventions qui allaient révolutionner un petit peu l'époque. Et donc sur fond de guerre de religion, de grandes explorations, etc., on a un héros qui est un peu un MacGyver de la Renaissance et qui s'en sort toujours par des inventions que ses contemporains trouvent extraordinaire, alors qu'il se contente évidemment d'appliquer des principes scientifiques basiques, mais que tout le monde ignore à son époque. Et donc Noé Monin, qui est là et qui dédicace, finalement a réussi à avoir un dessin très très dynamique, très 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 drôle. Et du coup, c'est à la fois une BD où on apprend beaucoup de choses et une BD d'aventure, de pur, d'action, avec, j'espère, beaucoup d'humour.
Alors justement, on va inviter les auditeurs passionnés de BD à venir sur le stand de BD et compagnie sur ce salon du livre du Grand Narbonne. Juste, je vais pas vous retenir longtemps parce que je sais que dans un petit quart d'heure, le public a rendez-vous avec vous, Michel Bussy, pour participer à la dictée de Michel Bussy à l'espace rencontre du salon du livre du Grand Narbonne. Et c'est un rendez-vous pour rendre hommage à Bernard Pivot. À qui s'adresse ce rendez-vous finalement ?
Alors, c'est un rendez-vous pour une cause caritative, hein, puisque effectivement tous les dons seront versés à des associations. Donc les gens qui participeront à une bonne action. Je crois que la jauge est de 60 personnes, donc on va sans doute refuser du monde. Et j'ai lu évidemment, enfin j'ai pas encore lu la dictée, mais je l'ai lu pour moi-même. Et avis aux amateurs, c'est une dictée de Bernard Pivot, donc c'est du haut niveau.
Eh ben voilà, je vois déjà la queue qui commence à se former, donc venez vite. Michel Bussy, c'est la première fois que vous faites, donc on l'a dit, le Salon du Livre à Narbonne, mais vous aimez participer à des Salons du Livre, c'est important pour vous cette rencontre avec vos lecteurs ou vos futurs lecteurs?
Oui, c'est une chance quand on est un auteur entre guillemets, qui vend des livres. Quand je viens sur les salons, il y a toujours beaucoup de monde. Enfin, quel que soit l'endroit où je viens, en France ou ailleurs, il y a des gens qui me lisent, donc c'est une chance. Et puis, il faut toujours penser que le métier d'écrivain, c'est un métier très solitaire où l'essentiel du temps, on est chez soi devant un ordinateur à écrire tout seul. C'est ça notre vie. Et donc, moi, je suis toujours très content un week-end ou sur un soir de semaine d'aller rencontrer des lecteurs. Moi, je dis souvent, c'est une façon de recharger les batteries ou de reprendre un boost d'adrénaline, puisqu'évidemment, le propre de l'écrivain, c'est qu'il n'est pas derrière l'épaule du lecteur quand il lit. Et donc, forcément, on n'a pas ce rapport direct. Un chanteur, par exemple, en concert, il va voir directement l'impact de ses chansons sur la foule qu'il écoute. Nous, on est obligé d'avoir un rapport à distance, qui est très joli, parce qu'il y a une intimité qui se crée, mais qui n'est pas concomitante. Et donc, sur les salons, on est toujours bluffé. Moi, je suis toujours bluffé de voir des tas de gens venir me remercier, me demander de continuer, de me demander quand va sortir mon prochain livre. Ça, c'est vraiment des choses qui donnent un sens à un métier qui est finalement très, très solitaire.
Ça donne du baume au cœur. On parle juste de votre nouveau roman qui sortira, vous l'avez dit hier soir, donc je vais l'évoquer, le 15 août. On n'a pas dit le titre de ce roman, mais l'histoire va se passer au Rwanda.
Exactement, donc c'est un roman qui sortira pour la première fois pour la rentrée littéraire, mi-août. C'est un roman qui reste un roman policier, qui reste un roman d'espionnage, un roman d'aventure avec mes twists, avec tous mes rebondissements. La grande différence, c'est que le contexte cette fois est un contexte historique particulièrement poignant, puisque c'est le contexte du génocide des Tutsis au Rwanda. Donc c'est un drame qui sur lequel je travaille depuis pratiquement 30 ans, depuis pratiquement le génocide. Et l'idée, le challenge, c'était de mêler une fiction avec des personnages très forts dans la grande histoire, et en particulier une histoire sur laquelle il y a encore beaucoup de zones d'ombre, notamment sur le rôle de la France dans ce génocide. Et donc, c'est non seulement un roman va dire, d'aventure, un roman policier, un roman historique, mais c'est aussi un roman où, en tant que citoyen français, je défends une thèse sur le Rwanda, qui est une thèse qui n'a pas été si souvent mise en évidence, en tout cas jamais mise en évidence dans une fiction. Et je pense que les gens qui le liront vont apprendre beaucoup de choses, vont comprendre surtout beaucoup de choses. Et il y a aussi un devoir de mémoire vis-à-vis du Rwanda, puisque la France est le pays qui a été le plus impliqué dans ce génocide des Tutsis Rwanda.
Bon, il faudra patienter, hein. C'est le 15 août, mais vous pourrez déjà en parler avec Michel Bussy, qui se trouve sur le stand 18 tout le week-end, samedi et dimanche, sur ce salon du livre du Grand Narbonne. Vous serez là aussi demain, hein.
Oui, alors je suis là. Alors comme il y a la dictée ce matin, je serai là tout l'après-midi, donc ce samedi, et puis tout dimanche matin.
Ah ben voilà, super. Je vous laisse aller faire la dictée, la queue s'agrandit. Merci beaucoup en tout cas Michel Bussy. Je vais rappeler aux auditeurs de Grand Sud FM qu'on a la chance de vous avoir comme parrain pour cette 11e édition à Narbonne, et je vous souhaite un excellent salon, puis un excellent séjour.
Merci beaucoup, à bientôt.
Excellent samedi matin à vous tous, 10h21, toujours en direct du cours Mirabeau à Narbonne pour le salon du livre du Grand Narbonne. On retrouve Benjamin en compagnie de Romain Puertolas.
Ah oui, tout à fait Jean-Michel, je suis avec Romain Puertolas, que l'on peut retrouver sur ce salon du livre du Grand Narbonne, sur le stand cultural numéro 18. Bonjour Romain.
Bonjour, enchanté.
Alors aujourd'hui, nous recevons un auteur au parcours aussi étonnant que ses romans, Romain Puertolas, donc ancien policier, professeur de langue, DJ, désormais écrivain à succès. Vous êtes notamment l'auteur du livre « Ma vie sans moustache » aux éditions Albin à Michel. Alors votre parcours est pour le moins atypique, de la police à l'écriture, en passant par la musique, par steward, diplômé de météorologie, et j'en passe. Comment ces expériences ont nourri vos romans ?
Ouais, alors comme vous pouvez voir, c'est que je suis très curieux de la vie. J'ai un petit peu cette théorie des poupées russes. On n'a qu'une seule vie, donc autant en profiter. Et en fait, j'ai toujours exercé beaucoup de métiers, comme vous venez de le dire. Et tout ça maintenant, en fait, me sert pour ce métier que j'ai choisi, ou qui m'a choisi plutôt. Quand est sorti le Fakir coincé dans Ikea, ça a été pour moi un changement total de vie. J'ai pu me consacrer à l'écriture. Et effectivement, toutes ces expériences de vie que j'ai eues dans ma vie me servent maintenant à alimenter mes récits. Que ce soit la météorologie, puisque j'ai étudié à Météo France, à Toulouse, qui est pas très loin d'ici, l'aviation, la police, etc. Tout ça me sert. Il y a toujours quelque chose qui me sert dans un livre. Vous avez toujours un morceau de moi, en fait. C'est comme un puzzle. Et si vous prenez tous mes livres, vous avez l'image entière, on va dire.
Alors, dans votre dernier livre, « Ma vie sans moustache », vous imaginez une enquête absurde sur la fuite d'Hitler dans les Andes. D'où vous est venue cette idée complètement décalée, et qu'avez-vous voulu faire passer à travers ce récit ?
Alors, effectivement, c'est assez marrant parce que beaucoup de choses qu'il y a dans le livre est vrai, en fait, et les gens se disent, mais c'est pas possible et tout ça, mais en fait, ma vie est décalée, je crois. Je sais pas si j'écris des livres décalés parce que ma vie est décalée ou le contraire, mais en tout cas, effectivement, ça s'est passé en 2015. J'ai reçu un mail d'une personne, une vieille dame, qui me disait avoir été la cuisinière d'Hitler de 1945 à 1963. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire, et pour le reste, vous savez pertinemment que Hitler s'est suicidé dans son bunker à Berlin le 30 avril 1945. Donc, je suis parti en Patagonie, rencontrer tous ces gens. Il y a un village entier, une ville entière, San Carlos de Bariloche, dans laquelle les gens sont persuadés qu'Hitler a vécu. Alors moi, je suis un démystificateur, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui toute sa vie a été contre le complot, à argumenter, à prouver, à démystifier les choses. Et c'est dans ce but-là que j'y vais, en fait, pour montrer que non, que Hitler s'est bien suicidé. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'on n'a pas une preuve à 100% fiable qui nous dit qu'Hitler s'est bien suicidé ce jour-là. Donc je me suis engagé dans la brèche, et vous me connaissez, j'ai mélangé avec de la fantaisie, beaucoup d'humour, et voilà, vous allez rigoler, vous allez apprendre des choses, voilà, j'espère.
Justement, à travers vos romans, vous utilisez l'humour pour parler souvent de sujets sérieux. Est-ce que c'est une arme qui permet de parler de tout ?
Oui, moi, l'humour, c'est quelque chose dont j'ai besoin dans la vie. Je vois la vie, en fait, qui est très... Bon, j'ai été flic et on voit pas le meilleur de l'être humain, on va dire. Donc, j'ai une espèce de défense, même depuis que je suis petit, c'est que je vois les choses à travers un prisme qui déforme un peu et qui apporte un peu plus de couleur, un peu plus de fantaisie et d'humour. Et je pense que l'humour, c'est une arme, en fait, c'est une arme de destruction massive, on va dire, parce que ça vous fait un contraste de dire des choses sérieuses et dramatiques et terribles, de parler de la mort ou voilà, de choses terribles, mais d'une manière marrante, en fait, les gens rigolent avec mes livres, alors que la plupart du temps, ils sont pas très marrants, en tout cas les sujets, on va dire, et ça provoque une espèce de contraste qui fait que ça les marque plus. Et je pense que le message, il passe beaucoup plus quand il y a de l'humour, parce qu'on se dit, mais merde, mais pourquoi je rigole de ça ? Parce que c'est vraiment pas marrant. Et ça nous interpelle, et là, je me dis, bah, j'ai gagné mon truc. Ouais.
Est-ce que vous vous penchez déjà sur un prochain livre et peut-être sur une nouvelle idée un peu loufoque?
Ah ben je suis toujours, j'écris énormément, faut savoir que j'écris une dizaine, peut-être plus de livres à l'année et que évidemment on n'en sort qu'un. Donc vous pouvez vous imaginer que j'en ai plein les tiroirs et donc oui là je suis sur deux ou trois livres en même temps et je m'amuse bien. Il y a la suite notamment de comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès puisque mon enquête, puisque là je mène une vraie enquête pour rechercher Ligonnès, a avancé et donc j'ai trouvé des éléments nouveaux qui seront dans le tome 2. Voilà, donc il y a ça d'un côté et puis un autre projet que je tiens pour l'instant en secret qui m'amuse bien. En tout cas voilà, je m'amuse. Et je pense que mes lecteurs, quand ils lisent mes livres, ils voient que je me suis beaucoup amusé, ils rigolent, ils s'amusent avec moi. C'est ça le moteur, en fait, de moi dans mes livres, c'est de rire et de m'amuser, surtout de me divertir. C'est pas une souffrance, on va dire.
Alors, Romain Portelas, donc vous êtes attendu de 11h à midi sur l'espace rencontre sur l'humour au service de la narration. Du coup, pourquoi mettre de l'humour dans son roman?
Ah, parce que comme j'ai dit, je mets de l'humour partout dans ma vie et dans les romans parce que je suis comme ça. C'est pas, je cherche pas à faire rire en fait et tout ça. Quand j'avais écrit Le Fakir par exemple, qui est mon premier livre publié, on va dire, les gens me disaient qu'est-ce que j'ai rigolé et ça m'étonnait beaucoup parce que j'avais pas écrit ce livre-là pour. Alors apparemment, je fais rire sans le vouloir parce que moi, je veux pas faire rire. Je suis pas un comique, je pourrais jamais faire un one man show, des trucs comme ça, impossible. Enfin, mais en tout cas, il y a des gens qui adhèrent à une sorte d'humour. Alors des fois, je suis un peu lourd, mais avec l'âge, je me bonifie, j'enlève un petit peu des trucs. Je me dis, ouais, là, t'es vraiment trop lourd. Mais sinon, j'ai une propension, en fait. Je suis linguiste aussi de formation, une propension à faire des jeux de mots, à voir des jeux de mots là où le reste des personnes n'en verraient pas forcément. Et donc, être toujours dans de l'humour, comme je disais, pour peut-être désamorcer une réalité qui est dure, qui est difficile, la vie qui en soi est absurde, pourquoi on vit, pourquoi on meurt, vous savez, toutes ces questions-là qu'on métaphysique, auxquelles on pense de temps en temps et puis qu'on évince vite pour profiter de la vie. Mais voilà, tout ça est traité avec humour pour ne pas sombrer dans la dépression la plus profonde peut-être.
Merci beaucoup Romain.
Merci à vous, c'est un plaisir.
Voilà donc Romain Portelas que vous pouvez retrouver sur le stand Cultura numéro 18 pour des dédicaces et puis donc également à l'espace rencontre sur l'humour au service de la narration de 11h à midi, Jean-Michel.